Pour Deb, qui l'a rendu possible affectueusement. Tous mes remerciements à Bruce Sterling, Lewis Shiner, John Shirley, Eldon, et à Tom Maddox, l'inventeur de la glace, ainsi qu'à tous les autres qui savent pourquoi. Chapitre 1. Le ciel, au-dessus du port, était couleur télécalée sur un émetteur hors service. « Faudrait pas me prendre pour un camé !» entendit dire Kaz, tandis qu'il se frayait un passage dans la foule pour gagner la porte du tchat. « C'est juste que mon organisme souffre d'une énorme carence en drogue. » C'était un accent de la Conurb et une vanne de la Conurb. Le Tchatsubo était un bar pour expatriés de profession. Vous pouviez y zoner une semaine sans jamais entendre deux mots japonais. Ratz officiait au comptoir avec son bras artificiel, qui tressautait sur un rythme monotone pour remplir les chopes de Kirin Pression. Il vit Kaze et lui sourit de toutes ses dents, treillis d'acier est-européen et de caries brunâtres. Kaze se trouve à une place près du bar, entre le bronzage improbable d'une pute à l'onizone et l'uniforme impeccable d'un grand marin africain dont les pommettes s'ornaient des balafres régulières de marque tribale. « Gage était ici tout à l'heure, avec deux mignons », dit Ratz en faisant de sa main valide glisser une chope sur le comptoir. « Peut-être que c'est à toi qu'ils en ont, Kaze ?» Kaze haussa les épaules. La fille sur sa droite lui donna un coup de coude en gloussant. Le sourire du barman s'élargit. Sa laideur était épique. En un temps où la beauté était devenue denrée accessible, il y avait quelque chose de chevaleresque dans sa façon de la refuser. Le bras antique grinça lorsqu'il le tendit pour servir une autre chope. C'était une prothèse militaire russe, un manipulateur à 7 degrés de liberté et rétroaction sensorielle sous une enveloppe de plastique rose sale. « On joue trop l'artiste, Erkez, maugréa Ratz. » Le grognement lui tenait lieu de rire. Il gratta d'une pince rose le surplomb de bedaine qui saillait sous la chemise blanche. L'artiste des coups un peu rigolos. « Ben voyons, » fit Kaz en sirotant sa bière. « Faut bien qu'il y ait un petit rigolo dans le coin. Sûr que t'es mal barré pour ça. » Le gloussement de la pute grimpa d'une octave. « Toi aussi, fillette. Alors tu disparais, vite fait, vu ? Zone, c'est un pote à moi. » Elle regarda Kaz dans les yeux, tout en esquissant à peine un bruit de crachement, lèvres presque immobiles. Mais elle s'en alla. « Bon Dieu, » fit Kaz, « qu'est-ce que c'est que ce trouara ? Même pas moyen de boire un verre ?»« Ah !» dit Ratz, en épongeant avec un vieux chiffon le bois rayé. « Zone prend son pourcentage. Toi, je te laisse bosser ici pour amuser la galerie. » Kaz saisissait son verre de bière lorsque tomba l'un de ces étranges instants de silence. Comme si une centaine de conversations sans rapport étaient soudain, simultanément parvenues à la même pause. Le rire de la pute s'éteignit sur une dernière note, un rien hystérique. « Un ange passe !» grogna Ratz. « Les Chinois !» beugla un Australien saoul. « Ces putains de Chinois qui ont inventé la neuronexion. Pour vous couper les nerfs en quatre, ils s'y entendent pour t'arranger, mec. Et allons donc, » dit Kaz en lorgnant son verre, toute son amertume remontant soudain en lui comme un flot de bile. « Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie ?» Les Japonais en avaient déjà plus oublié en neurochirurgie que les Chinois n'en avaient jamais su. Les cliniques au noir de Chiba avaient beau être à la pointe de la technologie, avec des pans entiers de la technique remplacés mensuellement, elles n'avaient pas pu, malgré tout, réparer les dégâts qu'il avait subis dans cet hôtel de Memphis. Une année ici, et il rêvait toujours de cyberspace, même si l'espoir s'effaçait de soir en soir. Malgré le speed, malgré les virages et les virées, les raccourcis et les courjus qu'il s'était pris dans la cité de la nuit, il continuait de voir la matrice dans son sommeil, éclatant treillis de logique qui se dévidait à travers un vide incolore. La conurbe était bien loin maintenant, au bout d'une sacrée trotte, de l'autre côté du Pacifique, et il n'était plus un consoliste, plus un cow-boy du cyberspace, rien qu'un pirate comme un autre, qu'essayait de faire sa plotte. Mais les rêves revenaient dans la nuit japonaise comme autant de zombies câblés, et il chialait pour les ravoir. Il en chialait dans son sommeil pour s'éveiller tout seul dans le noir, roulé en boule dans sa capsule dans quelque hôtel à cercueil, les mains crochées dans le matelas, la mousse pressée contre ses doigts, à essayer d'atteindre la console qui n'était pas là. « J'ai vu ta nana l'autre soir, » dit Ratz en passant à Kez, sa seconde Kirin. « J'en ai pas, » fit-il, et il but. « Miss Lindali ?» Kez hocha la tête. « Pas de fille, rien, rien que le boulot, mon pote l'artiste. Complètement polar ?» Les petits yeux bruns du barman étaient profondément nichés dans la chair ridée. « Je crois bien que je t'aimais encore mieux avec elle. Tu riais plus. Maintenant, il y a des soirs, t'aurais peut-être tendance à devenir trop artiste. Tu vas finir en cuve dans une clinique en pièces détachées. Ratz, tu me fends le cœur. » Il finit sa bière, paya et sortit, haute silhouette aux épaules étroites, voûtée, sous le nylon kaki taché de pluie de son coupe-vent. Se faufilant parmi la foule de Ninsei, il pouvait sentir sa propre odeur de sueur rance. Kez avait 24 ans. À 22, il était un cow-boy, un braqueur, l'un des tout bons de zone. Sa formation, il la tenait des meilleurs, les Mike Coyle, Paulet et autres Bobby Quinn. Des légendes dans le métier. Il avait opéré en trip d'adrénaline, pratiquement permanent. Un sous-produit de la jeunesse et de la compétence. Branché sur une platine de cyberspace, maison, qui projetait sa conscience désincarnée au sein de l'hallucination consensuelle qu'était la matrice. Voleur, il avait travaillé pour d'autres voleurs plus riches. Des employeurs qui lui fourguaient le logiciel bien particulier requis pour pénétrer les murs brillants des réseaux de grosses sociétés, pour tailler des ouvertures dans de riches champs de données. Il avait commis l'erreur classique, celle qu'ils étaient jurés de ne jamais faire. Il avait piqué à ses employeurs. Il avait étouffé une bricole et cherché à la sortir par un fourgue à Amsterdam. Il ne savait pas encore au juste comment il l'avait chopé, non que cela eût de l'importance à présent. Il s'était alors attendu à mourir. Mais il s'était contenté de sourire. Bien sûr qu'il était libre d'entrer, lui avait-il dit. Libre de taper dans le fric, surtout qu'il allait en avoir besoin. Parce que, et il souriait toujours, ils allaient bien veiller à ce qu'il ne travaille plus jamais. Ils lui endommagèrent le système nerveux avec une mycotoxine russe héritée de la guerre. Ficelé sur un lit dans un hôtel de Memphis, il hallucina pendant 30 heures, tandis que son talent se consumait micron par micron. Le dommage fut minime, subtil et parfaitement efficace. Pour Kez, qui n'avait vécu que pour l'exultation désincarnée du cyberspace, ce fut la chute. Dans les bars qu'il fréquentait du temps de sa gloire, l'attitude élitiste exigeait un certain mépris pour la chair, le corps. C'était de la viande. Kez était tombé dans la prison de sa propre chair. L'ensemble de son avoir se trouva vite fait converti en nouveau yen, un bon paquet de ce vieux papier-monnaie qui transitait sans fin dans le circuit fermé des marchés noirs du monde, comme les coquillages des insulaires de trop brillantes. Il était difficile d'effectuer des affaires légales en liquide dans la conurbe. Au Japon, c'était déjà illégal. Au Japon, il l'avait su avec une absolue certitude. Il trouverait le traitement de son mal. À Shiba, soit dans une clinique déclarée, soit dans l'ombre de la médecine au noir, synonyme d'implantation, de neuronexion et de microbionique. Shiba constituait un aimant pour la subculture de la conurbe. À Shiba, il avait vu ses nouveaux yens fondre en 2 mois d'examen et de consultation. Les hommes des cliniques au noir, son ultime espoir, avaient admiré l'habileté avec laquelle on l'avait estropié avant de lentement hocher la tête. Désormais, il dormait dans les cercueils meilleur marché, les plus proches du port, sous les tubes à quartz halogène qui, toute la nuit, illuminaient les docks comme autant d'immenses plateaux de tournage, d'où vous ne pouviez même pas voir les lumières de Tokyo à cause de la lueur du ciel télévision, pas même la monstrueuse enseigne holographique de la Fuji Electric Company. Là où la baie de Tokyo était une étendue noire, où les mouettes tournoyaient au-dessus de plaques de polystyrène expansées à la dérive. Derrière le port s'étendait la cité, avec ses dômes d'usines dominés par les vastes cubes des sièges de conglom. Le port et la ville étaient divisés par une étroite frontière de vieilles rues, un secteur officiellement dépourvu de nom. La cité de la nuit avec, en son cœur, Ninsei. Dans la journée, les bars de Ninsei étaient fermés, anonymes, néons éteints, hologrammes inertes, attendant, tapis sous le ciel argent empoisonné. Deux pâtés de maison à l'ouest du Tchat, dans un troquet appelé la jarre de thé, Kaise fit descendre la première pilule de la nuit avec un double express. C'était un octogone plat et rose, une version forte de Dex brésilienne qu'il avait achetée à l'une des filles de zone. La jarre était tapissée de miroirs, chaque glace encadrée de néons rouges. Au début, de se retrouver seul à Shiba avec peu d'argent et encore moins d'espoir d'y trouver la guérison, il était parti dans une espèce de surenchère ultime, traquant l'argent frais avec une froide détermination qui lui avait paru appartenir à un autre. Durant le premier mois, il avait tué deux hommes et une femme pour leur voler des sommes qui, un an auparavant, lui auraient paru minables. Ninsei l'épuisa au point que la rue elle-même avait semblé devenir la manifestation extérieure de quelques pulsions de mort, quelques poisons secrets dont il se serait de tout temps supporteur. La cité de la nuit était comme une expérience folle de darwinisme social, conçue par un chercheur là, le pouce pressé en permanence sur la touche d'avance rapide. Vous cessiez de trafiquer et vous couliez sans laisser de traces, mais que vous avanciez un peu trop vite et vous brisiez la fragile tension superficielle du marché noir, d'un côté comme de l'autre, vous étiez largué, et ne restait de vous que quelques vagues souvenirs dans l'esprit d'un vieux meuble comme Ratz, même si votre cœur, vos poumons ou vos reins pouvaient éventuellement survivre dans les cuves des cliniques au profit de quelque étranger pourvu de nouveaux yens. Ici, le bruissement des affaires créait un bourdonnement subliminal constant, et la mort était la punition acceptée pour cause de paresse, négligence, manque de grâce, inaptitude à se conformer aux exigences d'un protocole complexe. Seul derrière sa table, à la jarre de thé, avec l'octogone qui commençait à faire effet, tête d'épingle de sueur qui lui mouillait déjà les paumes, soudain conscient du chatouillement du moindre poil sur ses bras et sa poitrine, Kaise comprit qu'à un certain point, il s'était mis à jouer un jeu avec lui-même, un jeu fort ancien, qui n'avait pas de nom, un solitaire ultime. Il ne portait plus d'armes, et ne prenait plus désormais les plus élémentaires précautions. Il courait au plus vite, menait ses deals en pleine rue, et il avait la réputation d'être capable de vous dénicher tout ce que vous vouliez. Une partie de lui-même savait que l'arc de son autodestruction était aussi évident qu'une éblouissante auréole pour sa clientèle, qui se réduisait de jour en jour, mais une autre partie de lui-même continuait à se bercer de la certitude que ce n'était en fin de compte qu'une affaire de temps. Et c'était cette partie-là, bloquée dans l'attente béate de la mort, qui détestait le plus songer à Linda Lee. Il l'avait trouvée, un soir de pluie, dans une galerie de jeux. Dans la lueur des spectres qui brûlaient à travers la brume bleue de la fumée de cigarette, des hologrammes du château du magicien, de la guerre de blindés en Europe, des gratte-ciels de New York, et voilà qu'il se souvenait d'elle, ainsi, baignée de la mouvante lumière laser, les traits réduits à un code, éclat d'écarlate sur les pommettes, tandis que brûle le château du magicien, le front baigné d'azur lorsque Munich tombe dans la guerre des blindés, la bouche effleurée d'or brûlant quand le curseur, glissant, arrache des étincelles aux parois du canyon entre les gratte-ciels. Il planait sec cette nuit, avec une brique, de la kétamine de Gage en route pour Yokohama et le fric déjà dans la poche. Il arrivait dessous la pluie tiède qui grisillait sur le pavé de Ninsei, et d'une certaine manière, il ne pouvait voir qu'elle, un visage parmi d'autres, devant les consoles, absorbé dans la partie qu'elle jouait. L'expression sur ses traits à ce moment-là avait été celle qu'il devait découvrir des heures plus tard, sur son visage assoupi, dans un cercueil du côté du port, le trait de la lèvre supérieure pareil à celui que les enfants dessinent pour figurer un oiseau en plein vol. Traversant la galerie pour la rejoindre, toujours allumée par le marché qu'il venait de réaliser, il la vit lever la tête, des yeux gris bordés de rimmel noir, les yeux de quelque animal cloué dans le faisceau des phares d'une voiture. Leur nuit s'était prolongée jusqu'au matin, avec des billets pris au Overport pour sa première traversée de la baie. La pluie n'avait pas cessé, tombant le long d'Harajuku, perles sur la veste en plastique de la fille, tandis que devant les boutiques fameuses, les enfants de Tokyo défilaient en mocassins blancs et capes à velcro, jusqu'à ce que, dans le fracas nocturne d'une galerie à Pachinko, elle lui prenne la main comme une enfant. Il fallut un mois à la gestalt de drogue et de tension au sein de laquelle il se mouvait pour transformer ses yeux perpétuellement étonnés en puits de désir réfléchi. Il avait vu sa personnalité se fragmenter, mettre bas comme un iceberg qui essaime ses échardes errantes pour finalement découvrir chez elle le besoin cru, le squelette vorace de la dépendance. Il l'avait vu pister le coup suivant avec une concentration qui lui évoquait ces mantes religieuses qu'on vendait sur des étals le long de Shiga, à côté des bassins de carpes mutantes bleues et des criquets dans leurs cages de bambou. Il contempla l'anneau noir de mare au fond de sa tasse vide. Les amphées qu'il avait prises le faisaient vibrer. Le stratifié brun de la table était terni par la patine de minuscules éraflures. Avec la Dex qui lui montait le long de l'échine, il vit les innombrables impacts aléatoires requis pour engendrer une surface de cette texture. La jarre était décorée en un style innommable et démodé du siècle passé, un mélange difficile de nippon traditionnel et de plastique milanais pâle, mais tout semblait recouvert d'une pellicule subtile, comme si, quelque part, la mauvaise humeur d'un million de clients était parvenue à attaquer la surface des glaces et du plastique, jadis brillante, la laissant ternie, d'une ineffaçable patine. Hé, qu'est-ce, mon pote ? Il leva la tête, croisa des yeux gris cernés de rimmel. Elle portait un treillis orbital à la française, usé, et des tennis blanches neuves. Je te cherchais, mec. Elle prit place en face de lui, les coudes posés sur la table. Elle avait dézippé les manches de sa combinaison bleue aux épaules. Automatiquement, il lorgna ses bras, cherchant des traces de derme ou de marques d'aiguille. « Une clope ?» Elle piocha un paquet aplati de Ye Yuan filtre dans une poche de cheville et lui en offrit une. Il la prit, la laissa lui allumer avec un tube de plastique rouge. « Tu roupilles, qu'est-ce pas vrai ? Tu m'as l'air crevé !» Son accent le ramena vers le sud, le long de la Conurbe, du côté d'Atlanta. La peau sous ses yeux était pâle et maladive. Mais la chair était encore lisse et ferme. Elle avait 20 ans. De nouvelles rides de douleur commençaient à se creuser, permanentes, au coin de sa bouche. Ses cheveux bruns étaient ramenés en arrière, retenus par un bandeau de soie imprimée. Le motif aurait pu représenter des micro-circuits, ou le plan d'une ville. Pas si je me souviens de prendre mes pilules, lui dit-il, tandis que le frappait une vague nostalgie, le désir et la solitude chevauchant sur la longueur d'onde de l'amphétamine. Il se rappela l'odeur de sa peau dans l'obscurité surchauffée d'un cercueil près du port, les doigts crochés dans le bas de son dos. Il songea, toujours la viande avec ses exigences. Gage, fit-elle en plissant les yeux. « Il veut te voir avec un trou dans le front », ajouta-t-elle en allumant sa cigarette. « Qui a dit ça ? Ratz ? T'as causé avec Ratz ?»« Non, Mona. Son dernier mec est un des mignons de Gage. » « Je ne lui dois pas suffisamment. Il me rétame, il perd son fric de toute manière, » fit-il en haussant les épaules. « Il y a trop de gens qui lui en doivent maintenant, Kez. Peut-être que t'es censé constituer un exemple. T'aurais sérieusement intérêt à faire gaffe. »« Bien sûr. Et toi, Linda, t'as un coin pour dormir ?»« Dormir ?» Elle hocha la tête. « Bien sûr, Kez. » Elle frissonna, penchée au-dessus de la table. Son visage était recouvert d'une pellicule de sueur. « Tiens, » fit-il, et il alla piocher dans la poche de son coupe-vent pour en sortir un billet de 50 froissé. Il le lissa d'un geste automatique sous la table, le plia en quatre et le lui passa. « T'as besoin de ça, chérie. Tu ferais mieux de le donner à Gage. » Il y avait à présent, dans le gris de ses yeux, quelque chose qu'il ne pouvait déchiffrer, une chose qu'il n'y avait jamais vue auparavant. « Je dois bien plus à Gage. Prends-le. Et je dois en toucher encore, » mentit-il, en regardant ses nouveaux yens s'évanouir au fond d'une poche zippée. « Tu touches ton fric, Kez, et tu vas trouver Gage, vite fait. On se reverra, Linda, » fit-il en se levant. « Bien sûr. » Un millimètre de blanc apparut sous chacune de ses pupilles. « Sans pas coup. Surveille tes arrières, mec. » Il acquiesça, pressé d'être parti. Il se retourna pour voir la porte de plastique se refermer brutalement derrière lui, et ses yeux reflétaient dans la cage de néon rouge. Vendredi soir sur Ninsei, il passa des étals de yakitori et des salons de massage, un café baptisé La Belle-Fille, le tonnerre électronique d'une galerie de jeux. Il s'écarta pour laisser passer un sarariman vêtu de noir, avisant au passage le sigle de la Mitsubishi Genetec tatoué sur le dos de la main droite de l'homme. Était-il authentique ? Si oui, songea-t-il, le mec courait au-devant des ennuis, sinon tant pis pour lui. Les employés de la MG, au-dessus d'un certain échelon, recevaient l'implant de microprocesseurs avancés chargé de régulariser le niveau des mutagènes dans le sang. Dans la cité de la nuit, avec ce genre d'équipement, vous vous faisiez rouler vite fait, rouler direct vers une clinique au noir. Le sarariman avait été japonais, mais la foule qui arpentait Ninsei était une foule de geijin. Des groupes de marins montés du port, des touristes solitaires et crispés en quête de plaisir répertoriés dans aucun guide, des richards de la Conurbe, arborant implants et greffes, et une douzaine d'espèces différentes de pirates qui tous grouillaient sur le pavé en une danse compliquée de tractation et de désir. Il y avait d'innombrables théories pour expliquer pourquoi Shiba tolérait l'enclave de Ninsei, mais Kez penchait vers l'idée que le Yakuza maintenait peut-être le quartier comme une espèce de réserve historique, un souvenir de ses humbles origines. Mais il voyait également une certaine logique dans le fait que les technologies bourgeonnantes requièraient l'existence de zones hors la loi, que la cité de la nuit n'était pas là pour ses habitants, mais en tant que terrain de jeu où l'on aurait laissé la technologie délibérément s'épanouir. Linda avait-elle donc raison, se demanda-t-il en levant les yeux vers les lumières. Gage l'aurait-il fait tuer pour faire un exemple ? Ça ne tenait guère debout, mais enfin, Gage donnait essentiellement dans les recherches biologiques illégales, et on disait bien qu'il fallait être dingue pour se lancer là-dedans. Mais Linda disait que Gage voulait le voir mort. La première approche qu'avait eue Kez de la dynamique des échanges dans la rue était que ni l'acheteur ni le vendeur n'avaient réellement besoin de sa présence. Le boulot d'un intermédiaire est donc de savoir faire de lui un mal nécessaire. Sa niche douteuse dans l'écologie criminelle de la cité de la nuit. Kez se l'était découpé à coups de mensonges. creusé nuit après nuit à force de trahison. Maintenant qu'il en voyait les murs se fissurer, il se sentait au bord d'une étrange euphorie. La semaine précédente, il avait retardé le transfert d'un extrait glandulaire synthétique pour le fourguer avec une marche plus large que d'habitude. Il savait que Gedge n'avait pas apprécié. Gedge était son premier fournisseur. 9 ans à Shiba, et l'un des rares négociants, Gedjin, avoir su se forger des relations dans les milieux criminels rigidement stratifiés, extérieurs aux frontières de la cité de la nuit. Matériel génétique et hormones filtraient jusqu'à Ninsei au travers d'un réseau compliqué de paravents et de chicanes. Gedge était toutefois parvenu à remonter une fois une piste et depuis, il entretenait des rapports réguliers avec une douzaine de villes. Kay se surprit à contempler la vitrine d'un magasin. L'établissement vendait de la pacotille au marron. Des montres, des crans d'arrêt, des briquets, des vidéos de poche, des platines de SimSteam, des chaînettes lestées, des shurikens. Les shurikens l'avaient toujours fasciné. Étoiles d'acier aux pointes acérées. Certaines étaient chromées, d'autres noires, d'autres enfin avec un traitement de surface irisé comme une pellicule d'huile sur de l'eau. Mais c'étaient les étoiles de chrome qui attiraient son regard. Monté sur le daim écarlate des présentoirs, à l'aide de boucles de fils de pêche en nylon quasi invisibles, poinçonnées en leur centre de symboles divers, dragons ou yin-yang, elles captaient l'éclat des néons de la rue pour leur renvoyer déformé, et Kay se prit à songer quelles étaient les étoiles sous lesquelles il voyageait, épelant son destin dans une constellation de chrome de pacotille. « Julie, dit-il aux étoiles, temps d'aller voir ce vieux Julie, il saura. » Julius Dean était âgé de 135 ans, avec un métabolisme assidûment remanié par une fortune hebdomadaire en sérums et hormones. Sa première couverture contre le vieillissement consistait en un pèlerinage annuel à Tokyo, où les chirurgiens génétiques recomposaient le code de son ADN, une procédure qui n'était pas disponible à Shiba. Ensuite, il volait jusqu'à Hong Kong, se commandait un costume et chemise pour l'année. Asexué d'une patience inhumaine, il semblait avoir reporté tout son plaisir sur une véritable dévotion pour les formes les plus ésotériques de la haute couture. Kay ne l'avait jamais vu porter 2 fois le même costume, bien que sa garde-robe parût entièrement consister en reconstitution méticuleuse des habits du siècle passé. Il affectait le port de lentilles médicales, cerclées d'une monture dorée arachnéenne, taillée dans de minces feuilles de quartz synthétique rose et biseautées comme les miroirs dans une maison de poupée victorienne. Ses bureaux étaient situés derrière Ninsei, dans un entrepôt dont une partie semblait avoir été chichement décorée, bien des années plus tôt, avec une collection prise au hasard de mobilier européen. Comme si Dean avait à l'époque eu l'intention d'élire domicile dans ces lieux. La poussière s'accumulait sur des bibliothèques néo-aztèques, appuyées contre un des murs de la pièce où attendait Kay. Une paire de lampes de chevet globuleuses, style Disney, était perchée de guingois sur une table basse à la Kandinsky, en acier laqué d'écarlate. Une montre molle de Dali était accrochée au mur entre les bibliothèques, son cadran déformé, pendant jusqu'au sol de béton. Les aiguilles étaient des hologrammes qui se déformaient pour suivre le contour tordu du cadran au fur et à mesure de leur rotation, mais elles n'indiquaient jamais l'heure exacte. La pièce était encombrée de modules de transport en fibres de verre blanche, desquels émanait une odeur de gingembre en conserve. « Tu m'as l'air d'être clair, fils, » annonça la voix désincarnée de Dean. « Entre donc. » Les gâches magnétiques se dégagèrent avec bruit autour de la porte massive en imitation bois de rose à gauche des bibliothèques. On pouvait y lire « Julius Dean, import-export », inscrit sur le plastique en capitale auto-adhésive. Si le mobilier épars dans son antichambre de fortune suggérait la fin du siècle passé, Le bureau, en revanche, semblait appartenir à son début. Le visage rose et sans rides de Dean considérait Case dessous la tache de lumière jetée par une antique lampe en cuivre à l'abat-jour rectangulaire en verre émeraude sombre. L'importateur trônait, bien abrité derrière un vaste bureau d'acier laqué, flanqué de hauts meubles à tiroirs en une espèce de bois clair. Case supposait que ce genre de mobilier avait dû jadis servir à entreposer des archives papier de l'une ou de l'autre sorte. Le dessus du bureau était jonché de cassettes, de rouleaux d'imprimantes jaunies et des pièces éparses d'une sorte de machine à écrire mécanique, un engin que Dean semblait ne jamais se résoudre à remettre en état. « Qu'est-ce qui t'amène, mon gars ?» demanda Dean, en offrant à Case un bonbon mince emballé de papier à damier bleu et jaune. « Goûte-moi ça. Des Ting Ting Jeb, les meilleurs. » Case refusa le gingembre, s'assit dans un fauteuil pivotant en bois et passa un pouce le long de la couture usée de sa jambe de jean noir. « Julie, j'ai entendu dire que Gage voulait me tuer. »« Ah, voilà autre chose. Et d'où tiens-tu cela sans indiscrétion ?»« De Jean. »« De Jean ?» répéta Dean en sussotant son bonbon au gingembre. « Quel genre de gens ? Des amis ?» Case acquiesça. « Pas toujours si évident de savoir qui sont vos amis, pas vrai ?»« Je lui dois effectivement une somme, Dean. Il t'a dit quelque chose ?»« Guère eu de rapport ces derniers temps. » Puis il poussa un soupir. « À supposer même que je le sache. Il se pourrait, bien sûr, que je ne sois pas en position de te le dire. Les choses étant ce qu'elles sont, tu comprends ?» Les choses ? C'est une relation importante, Case. Oui, il veut me tuer, Julie. Pas que je sache. Dean haussa les épaules. Ils auraient aussi bien pu discuter du cours du gingembre. Si la rumeur se révèle non fondée, fils, tu reviens d'ici une semaine et je te mets sur un petit quelque chose, venu de Singapour. Fourni par le Nan Hai Hotel ? « Ben Coulen Street ?»« Modère ton langage, fils, » sourit Dean. Le bureau d'acier était encombré d'une fortune en matériel anti-écoute. « À la revoyure, Julie, et salut Gage de ma part. » Les doigts crispés de Dean montèrent caresser l'impeccable nœud de sa cravate de soie pâle. Il était à moins d'un pâté de maison de chez Dean lorsqu'il sentit le déclic, la soudaine perception cellulaire d'avoir quelqu'un qui lui filait le train et tout près. L'entretien d'une certaine dose contrôlée de paranoïa allait de soi pour Case. L'astuce consistait à savoir toujours la maîtriser. Mais ça pouvait devenir coton, surtout après l'absorption d'une pile d'octogone. Il résista à la décharge d'adrénaline et composa sur ses traits fins un masque de vide là, en faisant semblant de se laisser porter par la foule. Avisant une vitrine obscure, il s'arrangea pour s'arrêter devant. C'était une boutique de chirurgie, fermée pour travaux de rénovation. Les mains fourrées dans les poches de sa veste, il contempla derrière la vitrine un losange plat de chair éprouvette disposé sur un piédestal gravé en imitation jade. La couleur de la peau lui rappelait celle des putains de zone. Y était tatoué un affichage numérique lumineux, câblé à une puce sous-cutanée. Pourquoi se préoccuper de chirurgie ? Se surprit-il à penser, tandis que la sueur lui dégoulinait le long des côtes, quand vous pouviez simplement trimballer le truc dans la poche. Sans mouvoir la tête, il leva les yeux pour étudier le reflet de la foule qui passait. Là, derrière les marins en chemise kaki à manches courtes, cheveux bruns, vert miroir, habits sombres, minces, et disparu. Bientôt, Case courait, plié en deux, zigzagant parmi tous ces tas de viande. « Tu me loues un flingue, Shin ?» Sourire du garçon. 2 heures. Il se tenait dans l'odeur de marée, à l'arrière de l'étal d'un vendeur de sushi sur Shiga. Tu reviens, 2 heures. M'en fous un tout de suite, mec, t'as rien là ? Chine fourragea derrière 2 bidons vides de 2 litres, qui naguère avaient contenu du réfort en poudre. Il en sortit un fin paquet de plastique gris. Taiseur. 1 heure, 20 nouveaux yens, 32 quotients. Merde, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'un flingue. Comme si, mettons, je voulais descendre quelqu'un, pigé ? Le garçon haussa les épaules, planqua de nouveau le taiseur derrière les bidons de réfort. 2 heures. Il pénétra dans une échoppe sans s'attarder à contempler l'étalage de shuriken. Il n'en avait jamais lancé un de sa vie. Il s'acheta 2 paquets de Yeyewans à l'aide d'une carte mémoire de la Mitsubishi Bank qu'il identifiait comme Charles Derek May. Ça enfonçait Truman Star, ce qu'il avait pu trouver de mieux en guise de passeport. La japonaise derrière le terminal semblait battre le vieux Dean de quelques années, et cela sans le recours de la science. Il sortit de sa poche un mince rouleau de nouveaux yens et le lui montra. « Je veux acheter une arme. » Elle lui indiqua une étagère remplie de couteaux. « Non, fit-il, je n'aime pas les couteaux. » Elle sortit de sous le comptoir une boîte oblongue. Le couvercle était en carton jaune, marqué de l'image grossière d'un cobra enroulé, qui dressait la tête, le capuchon gonflé. À l'intérieur se trouvaient 8 cylindres identiques, emballés dans du papier de soie. Il regarda les doigts bruns tachetés déballer l'un des objets. La femme le lui tendit pour qu'il l'examine. Un tube d'acier terne, muni d'une courroie de cuir à une extrémité et d'une petite pyramide de bronze à l'autre. Elle saisit le tube d'une main, maintenant la pyramide entre le pouce et l'index de l'autre, et tira. Bien huilé, 3 segments télescopiques de ressorts d'acier, fortement bandés, jaillirent et se verrouillèrent. « Cobra, lui dit-elle. » Derrière le frémissement des néons de Ninsei, le ciel était du même méchant gris. L'état de l'air avait empiré, à croire qu'il avait des dents ce soir. La moitié de la foule portait des masques filtrants. Kez avait passé 10 minutes dans un urinoir à essayer de découvrir un moyen pratique de dissimuler son cobra. En fin de compte, il avait décidé de glisser la poignée dans la ceinture de son jean, avec le tube remontant en travers de l'estomac. L'embout pyramidal lui caressait les côtes sous son coupe-vent. L'objet menaçait de choir sur le pavé à chacun de ses pas. Mais il le rassurait néanmoins. Le tchat n'était pas franchement le bar pour traiter des affaires. Mais les nuits de semaine, il attirait une clientèle d'habitués. Les vendredis et les samedis, c'était différent. Les réguliers étaient toujours là, la plupart, mais ils disparaissaient derrière l'afflux de marins et de spécialistes qui envahissaient les lieux. Tout en repoussant les portes, Kez chercha Ratz du regard, mais le barman était invisible. L'onizone, le macro attitré du bar, était en train d'observer l'œil vitreux, avec un intérêt paternel, l'une de ses filles, qui s'apprêtait à travailler un jeune marin. Zone s'adonnait à une variété d'hypnotiques que les Japonais appelaient nébulons. Interceptant le regard du macro, Kez l'invita au bar. Zone se glissa parmi la foule, au ralenti, visage allongé, placide et mou. « T'as vu Gage ce soir, Loni ?» Zone le contempla avec son calme habituel. Il hocha la tête. « Sûr, mec ?»« Peut-être. Au Namban, il y a 2 heures, peut-être. » L'avait pas quelques mignons avec lui, dont un mince, brun, peut-être en veste noire. Non, dit enfin Zone, une ride sur son front lisse, indiquant l'effort que lui coûtait le souvenir d'un aussi insignifiant détail. Des grands mecs, des greffés. Les yeux de Zone ne montraient presque pas de blanc, et encore moins d'iris. Sous les paupières lourdes, les pupilles dilatées étaient énormes. Il fixa Kez un long moment, puis baissa les yeux. Il vit la protubérance du fouet d'acier. « Un cobra, » fit-il en haussant un sourcil. « Tu veux dérouiller quelqu'un ?»« À bientôt, Loni. » Et Kez quitta le bar. La filature avait repris. Il en était sûr. Il sentit un picotement de soulagement. Les octogones et l'adrénaline se mêlaient à autre chose. « C'est que t'es en train de t'éclater avec ça. Tu deviens Barjot. » Parce que, quelque part, d'une manière aussi bizarre que fort approximative, tout cela ressemblait à une poursuite dans la matrice. Se retrouver coincé juste comme il faut, bloqué dans une espèce de situation aussi désespérée que bizarrement arbitraire. Il était possible de voir Ninsei comme un champ de données, à la manière dont la matrice avait une fois évoqué pour lui les assemblages de protéines chargés d'opérer les différenciations cellulaires. À ce moment, vous pouviez vous lancer à fond les manettes, totalement engagé en même temps que distancié par rapport à tout le processus. Tandis que tout autour se déclenchait la danse des données, les transferts et les interactions d'informations, données, incarnées dans le dédale du marché noir. « Vas-y, Kez, fonce !» se dit-il, « piège-les !» C'est la dernière chose à quoi ils s'attendent. Il était un demi-pâté de maison des salles de jeu où il avait pour la première fois rencontré Lindali. Il traversa en trombe Ninsei, bousculant un groupe de marins en goguette. L'un d'eux l'engueula en espagnol. Mais il avait déjà franchi l'entrée. Le son s'écrasait sur lui comme une déferlante. Choc des infrasons au creux de l'estomac. Quelqu'un venait de faire claquer les 10 mégatonnes sur la guerre des blindés en Europe. Une détonation aérienne simulée noyait la galerie dans le bruit blanc, tandis que l'hologramme de la boule de feu élevait son champignon sinistre au-dessus des têtes. Il coupa sur la droite pour grimper une volée de marches en aglo brut. Il était déjà venu ici, une fois avec Gedge, pour discuter d'un deal de déclencheurs hormonaux prohibés avec un type du nom de Matsuga. Il se rappelait le couloir, son revêtement taché, les rangées de portes identiques donnant sur de minuscules bureaux. L'une d'elles était ouverte à présent. Une japonaise en débardeur noir leva les yeux de son terminal derrière sa tête. Il y avait une affiche de voyage en Grèce, bleu égéen, éclaboussée d'idéogrammes fuselés. « Faites monter la sécurité !» lui lança Kez. Puis il piqua un sprint jusqu'au bout du corridor, disparaissant à sa vue. Les deux dernières portes étaient fermées et, supposa-t-il, verrouillées. Il pivota et frappa du plat de la semelle en nylon de ses tennis la porte, en synthétique laqué bleu situé tout au bout, faisant éclater le cadre et s'effondrer le panneau de matériaux bon marché. Dedans, l'obscurité, la courbe blanche du carénage d'un terminal. Puis il se jeta sur la porte de droite, les deux mains sur le bouton de plastique transparent, appuya de toutes ses forces. Quelque chose craqua, et il se retrouva à l'intérieur. C'était là que Gedge et lui s'étaient réunis avec Matsuga. Mais quel que fût la firme écran que manipulait ce dernier, elle avait depuis longtemps disparu. Plus de terminal, plus rien. La lumière de la ruelle derrière la galerie qui filtrait à travers le plastique crasseux. Il distingua la courbe serpentine d'un câble de fibre optique qui saillait d'une prise murale, une pile de conteneurs de nourriture vide et la nacelle d'un ventilateur électrique privé de ses pales. La fenêtre consistait en un unique panneau de plastique bon marché. Une secousse des épaules, il tomba la veste, la roula en boule autour de sa main droite et poussa. Elle se fendit, et il lui fallut 2 coups encore pour la libérer de son cadre. Au-dessus du chaos assourdi des jeux vidéo, une alarme se mit à retentir, déclenchée soit par la fenêtre, soit par la fille au bout du corridor. Kez se tourna, renfila sa veste et fit jaillir son cobra. La porte fermée, il escomptait que son poursuivant supposerait qu'il était passé par celle qu'il avait à moitié défoncée. La pyramide de bronze du cobra se mit à osciller doucement, le ressort d'acier de son axe amplifiant le mouvement. Rien ne se passa. Ne s'entendait toujours que l'ululement de l'alarme, le crépitement des jeux, le martèlement de son cœur. Lorsque vint la peur, ce fut comme une amie à demi oubliée. Non pas le mécanisme rapide et froid de la paranodex, mais une simple peur animale. Il vivait depuis si longtemps au seuil constant de l'anxiété qu'il en avait quasiment oublié le vrai goût de la peur. Ce cagibi était le genre d'endroit où mouraient les gens. Il pouvait très bien mourir ici. Il pouvait être armé. Un craquement tout au bout du corridor. Une voix d'homme criant quelque chose en japonais. Un hurlement de pure terreur. Un autre craquement. Et des pas qui approchent sans se presser. Qui dépasse sa porte fermée. Marque une pause, le temps de trois battements de cœur affolés, et s'en retourne. Un, deux, trois. Un talon de botte qui racle le sol. Le reste de la bravoure induite en lui par l'octogone l'abandonna. Il rétracta le cobra dans sa poignée et se rua vers la fenêtre, aveuglé par la terreur, les nerfs à vif. Il était déjà dehors, dans les airs, et tombait avant même d'avoir pris conscience de son acte. L'impact avec le pavé lui envoya dans les chevilles des traits de douleur sourde. Le mince pinceau de lumière, issu d'un sas de service entrouvert, dessinait un empilement de rouleaux de fibres optiques abandonnés, le châssis d'une console au rebut. Il était tombé le nez sur une plaque de micro-circuit gluant. Il roula sur le dos, dans l'ombre de la console. La fenêtre du cagibi dessinait un carré de lumière pâle. L'alarme oscillait toujours, plus forte ici, le mur du fond atténuant le rugissement des consoles de jeu. Une tête apparut, découpée par la fenêtre, éclairée à contre-jour par les tubes fluorescents du corridor, puis disparut. Elle revint, mais il ne put toujours pas distinguer ses traits. Éclat d'argent sur les yeux. « Merde !» dit quelqu'un, une femme, avec l'accent du nord de la Conurbe. La tête avait disparu. Allongé sous la console, Kaze compta jusqu'à 20 avant de se relever. Il avait toujours le cobra d'acier dans la main et il lui fallut quelques secondes pour se rappeler de quoi il s'agissait. Il descendit la ruelle en boitillant, ménageant sa cheville gauche douloureuse. Le pistolet de Chine était une imitation vietnamienne, vieille d'un demi-siècle, d'une copie sud-américaine de Walther PPK, à double action sur le premier coup, avec une détente très dure. Il était chambré pour des balles de 22 longs rifles, et Kaze aurait préféré des balles explosives, au plomb, aux simples charges creuses chinoises que Chine lui avait fourguées. Néanmoins, c'était toujours un pistolet avec chargeur, et tandis qu'il descendait Shiga, après avoir quitté l'étal du vendeur de sushi, il le fourra dans sa poche de veste. La crosse, en plastique rouge vif, s'ornait d'un motif de dragon dressé, le genre de truc à parcourir du pouce pour se réconforter dans le noir. Il avait mis le cobra en consigne dans une poubelle sur Ninsei, puis avalé un nouvel octogone. La pilule alluma ses circuits et il repartit, fendant la foule de Shiga à Ninsei, puis à Baitsu. Il estima que son poursuivant avait cessé de le filer, ce qui était parfait. Il avait des appels à passer, des transactions à régler, et tout cela ne pouvait attendre. Un pâté de maison plus bas, sur Baitsu, du côté du port, se dressait un immeuble de bureaux anonymes, 10 étages d'affreuses briques jaunes. Ses fenêtres étaient obscures à cette heure-ci, mais en se démontant le cou, on pouvait apercevoir une vague lueur émanant du toit. Un néon éteint près de l'entrée principale annonçait « Hôtel Echo » sous un paquet d'idéogrammes. Si l'endroit avait un autre nom, Kaze l'ignorait. On appelait toujours le coin « l'Hôtel Echo ». On y accédait par une ruelle perpendiculaire à Baitsu, au bout de laquelle un ascenseur attendait, au pied d'une cage transparente. L'ascenseur, comme l'hôtel lui-même, était un rajout de dernière heure, rattaché à l'édifice à grand renfort de bambou et d'époxy. Kaze entra dans la cage de plastique et fit usage de sa clé, un bout de carte magnétique sans aucune marque. Kaze louait un cercueil à la semaine depuis son arrivée à Chiba, mais il n'avait jamais dormi à l'hôtel Echo. Il dormait dans des endroits encore plus économiques. L'ascenseur sentait le parfum et la cigarette. Les flancs de la cage étaient rayés et plein de marques de pouces. Au niveau du cinquième étage, il vit les lumières de Ninsei. Il pianota des doigts sur la crosse de son pistolet, tandis que la cage ralentissait avec un sifflement dégradé. Comme toujours, elle s'immobilisa avec une violente secousse. Mais il y était paré. Il sortit dans la cour, à la fois hall et pelouse. Au milieu d'un tapis carré de gazon plastique vert, un adolescent japonais était assis derrière une console en arc de cercle. Il lisait un livre imprimé. Les cercueils en fibre de verre blanche s'alignaient sur des échafaudages tubulaires. 6 rangées de cercueils, 10 cercueils par rangée. Kez salua le garçon d'un signe de tête et traversa en boitillant la pelouse de plastique pour se diriger vers l'échelle la plus proche. L'enceinte était simplement recouverte d'une toiture en plaques de stratifié qui claquait dans le vent et laissait passer la pluie. Mais les cercueils étaient raisonnablement difficiles à ouvrir sans l'aide d'une clé. La passerelle en nid d'abeille du troisième niveau vibra sous son poids tandis qu'il se faufilait jusqu'au numéro 92. Les cercueils faisaient 3 mètres de long avec une écoutille d'accès d'un mètre de large sur un peu moins d'1,50 m de haut. Il inséra sa clé dans la fente et attendit la vérification par l'ordinateur de l'établissement. Des verrous magnétiques claquèrent avec un bruit rassurant et la porte d'accès coulissa vers le haut dans un couinement de ressort. Des tubes s'allumèrent en clignotant alors qu'il se glissait à l'intérieur, refermait la porte derrière lui et pressait le panneau qui activait le verrou manuel. Le numéro 92 était vide, hormis un ordinateur de poche Hitachi, modèle standard, et une petite glacière blanche en polystyrène expansé. La glacière contenait les restes de 3 pains de 10 kg de glace sèche, soigneusement emballés de papier pour retarder l'évaporation, ainsi qu'une bouteille de laboratoire en aluminium tourné. Accroupi sur la plaque de mousse brune qui tenait lieu de sol en même temps que de lit, Kez sortit de sa poche le 22 de Chine et le posa sur la glacière. Puis il retira sa veste. Le terminal du cercueil était intégré dans une paroi concave, à l'opposé d'un panneau énonçant en 7 langues le règlement intérieur. Kez décrocha le combiné rose de sa fourche et pianota de mémoire un numéro à Hong Kong. Il laissa sonner 5 fois avant de raccrocher. Son acheteur, pour 3 mégabits de RAM au Hitachi, ne prenait jamais les appels. Il pianota un numéro à Tokyo, dans Shinjuku. Une femme répondit quelque chose en japonais. « Le serpent est là ?»« Ravi de vous entendre, » répondit le serpent, intervenant sur la ligne depuis son poste. « J'attendais votre appel. »« J'ai la musique que vous cherchiez. » Coup d'œil à la glacière. « Très bonne nouvelle !» Mais nous avons en ce moment un problème de liquidité. Pouvez-vous l'affronter ? Écoute, mec, j'ai vraiment besoin de ce fric. Le serpent raccrocha. Sale connard, dit Kez à l'écouteur qui bourdonnait. Il fixa son petit pistolet de 4 sous. Dur, dur, dit-il. C'est vraiment galère ce soir. Kez entra au tchat 1 heure avant l'aube, les 2 mains fourrées dans les poches de sa veste. L'une serrait le pistolet loué, l'autre la bouteille d'alu. Ratz était à une table du fond, buvant de l'Apollinaris dans une chope de bière, ses 120 kilos de chair flasque appuyés contre le mur sur une chaise branlante. Un jeune Brésilien du nom de Kurt officiait au bar, servant une maigre foule de pochards pratiquement silencieux. Le bras de plastique de Ratz bourdonna lorsqu'il leva sa chope pour boire. Son crâne rasé était couvert d'une pellicule de sueur. « Pas l'air de tenir la forme, l'ami l'artiste, » dit-il, arborant dans un sourire les ruines humides de ses dents. « Je tiens une forme du tonnerre, » rétorqua Kez, sourire tout en dents de squelette. « La super forme !» Il se laissa choir dans le fauteuil en face de Ratz, les mains toujours dans les poches. Ben tiens, à part que tu te trimballes dans ton abri ambulant blindé à l'agneau et aux enfées. À l'épreuve des émotions les plus vulgaires, c'est ça? Et si tu me foutais un peu la paix, Ratz, t'as vu Gage? À l'épreuve de la peur et de la solitude, poursuivait le barman. Écoute donc ta peur. C'est peut-être bien ton ami. Entendu parler d'une bagarre à la galerie de jeu ce soir, Ratz? Du bobo? Un cinglé a saigné un vigile. Il haussa les épaules. Une fille, à ce qu'il paraît. Faut que je parle à Gage, Ratz. Ah! Ratz pinça les lèvres, la bouche réduite à un simple trait. Il regardait au-delà de Kez vers l'entrée. « Je crois que tu vas pas tarder. » Kez revit en un éclair les shurikens dans leur vitrine. Le speed chantait dans sa tête. La sueur rendait glissante la crosse du pistolet dans sa main. « Air Gage !» dit Ratz en tendant lentement son manipulateur rose, comme s'il s'attendait qu'on le lui serre. « Quel plaisir ! Vous ne nous faites que trop rarement l'honneur d'une visite. » Kez tourna la tête pour dévisager Gage, un masque bronzé parfaitement anonyme. Les yeux étaient des implants Nikon vert marine produits en cuve. Gage portait un costume de soie vert de gris avec un simple bracelet de platine à chaque poignet. Il était flanqué de ses mignons, deux jeunes hommes quasiment identiques, épaules et bras gonflés par les muscles greffés. « Comment va Kez ?»« Messieurs, » dit Ratz en ramassant dans sa pince de plastique rose le cendrier qui débordait de mégots. « Je ne veux pas de scandale ici. » Le cendrier était en épais plastique incassable et portait une pub pour la bière Tsingtao. Ratz l'écrasa en douceur, faisant cascader sur la table éclats et fragments de plastique vert. « Compris ?»« Eh, mon chou !» dit l'un des mignons. « Tu veux essayer avec moi ?»« Fatigue pas à viser les jambes, Kurt, » dit Ratz sur le ton de la conversation. Kez regarda à l'autre bout de la salle le Brésilien, debout derrière le bar, qui braquait sur le trio un Smith, un Wesson anti-émeute. Le canon de l'arme, un alliage mince comme une feuille de papier, renforcé par un kilomètre de fibre de verre, était assez gros pour avaler le poing. Le magasin à claire-voie révélait cinq grosses cartouches oranges, des balles à gelée caoutchouc subsonique. Techniquement non létale, indiqua Ratz. Hé, Ratz, lança Kez, je te dois quelque chose? Le barman haussa les épaules. Rien, tu me dois rien. Ces Ziglas, et il regardait furieux Gage et ses mignons, auraient tout intérêt à faire gaffe. On ne liquide pas quelqu'un comme ça au Tchatsubo. Gage toussota. « Mais enfin, qui parle ici de liquider quelqu'un? On veut juste parler affaires. Kez et moi, on bosse ensemble. » Kez sortit le 22 de sa poche et le braqua sur le bas-ventre de Gage. « J'ai cru comprendre que tu voulais me régler mon compte. » La griffe rose de Ratz vint se refermer sur le pistolet et Kez laissa sa main devenir molle. « Écoute, Kez, tu me dis un peu ce qui se passe chez toi. Tu travailles du chapeau ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, comme ça, j'essaierai de te tuer? » Gage se tourna vers le mignon sur sa gauche. « Vous deux, retournez m'attendre au Namban. » Kez les regarda traverser la salle, à présent entièrement déserte. À l'exception de Kurt et d'un marin ivre en kaki, roulé en boule au pied d'un tabouret. Le canon du Smith & Wesson les suivit jusqu'à la porte avant de revenir ajuster Gage. Le chargeur du pistolet de Kez tomba sur la table avec bruit. Maintenant, l'arme dans sa pince, Ratz fit sortir la balle engagée dans la chambre. « Qui t'a dit que j'allais te tirer dessus, Kez ?» demanda Gage. « Linda. »« Qui te l'a dit, mec ? Quelqu'un essaye de te monter contre moi ?» Le marin gémit de manière explosive. « Sors-le d'ici !» lança Ratz à l'adresse de Kurt qui s'était assis sur le rebord du bar, le Smith & Wesson posé en travers des cuisses pour s'allumer une cigarette. Kez sentit le poids de la nuit retomber sur lui comme un sac de sable mouillé jeté derrière ses yeux. Il prit la fiole dans sa poche et la tendit à Gage. « Tout ce que j'ai, de la pituitaire, de quoi te faire 500 billets pour peu que tu te magnes. Le reste, je l'avais placé dans des rames, mais elles sont déjà écoulées. Tu te sens bien, Kez ? » La fiasque avait déjà disparu sous un pan de veste vert de gris. Je veux dire, c'est bon, ça règle l'affaire entre nous, mais t'as vraiment une sale mine. une vraie gueule de merde écrasée. Tu ferais bien d'aller roupiller dans un coin. » Ouais. Il se leva et sentit le tchat osciller tout autour de lui. « Bon, j'avais bien ce billet de 50, mais je l'ai refilé à quelqu'un. » Il gloussa. Il récupéra le chargeur de 22 et la balle isolée, fourra le tout dans une poche, puis mit le pistolet dans l'autre. « Faut que j'aille voir Chine, récupérer ma caution. »« Rentre chez toi, » dit Ratz, qui se tortillait sur sa chaise branlante, avec quelque chose comme de l'embarras. « Allez, l'artiste, rentre chez toi. » Il sentit le poids de leur regard, tandis qu'il traversait la salle et franchissait les portes de plastique du bar. « Saloperie !» lança-t-il à l'adresse de l'aurore rose qui baignait Shiga. En bas, du côté de Ninsei, les hologrammes s'évanouissaient comme autant de spectres, et la plupart des néons étaient déjà éteints et noirs. Il était en train de siroter un café épais et noir dans le dé en mousse d'un vendeur de rue, en regardant se lever le soleil. « Barre-toi d'ici, mon chou. Les villes comme ici, c'est pour ceux qui aiment bien dégringoler. » Mais c'était pas vraiment ça, et il trouvait de plus en plus difficile de maintenir son goût pour la trahison. Tout ce qu'elle voulait, c'était un billet pour rentrer, et ça, la mémoire vive de son Itachi saurait le lui payer, pourvu qu'elle sache trouver la bonne porte. Et le coût du billet de 50, elle l'avait presque refusé, sachant qu'elle était pratiquement en train de le plumer. Lorsqu'il sortit de l'ascenseur, le même garçon était derrière le bureau. Plus le même bouquin. « Brave petit !» lança Keds de l'autre bout de la pelouse en plastique. « Pas besoin de me dire, je suis déjà au courant. La jolie dame est passée, en disant qu'elle avait ma clé. Elle t'a refilé un gentil petit pourliche. Disons 50 nouveaux. » Le gamin reposa son bouquin. « Femme !» dit Keds, et du pouce, il traça une ligne en travers de son front. « Soit !» Grand sourire. Le garçon le lui rendit en acquiesçant. « Merci, connard !» fit Kez. Sur la passerelle, il eut des problèmes avec la serrure. Elle avait dû plus ou moins la coincer en la trifouillant. Débutante. Il savait où louer une boîte noire qui lui ouvrirait tout à l'hôtel Echo. Les tubes s'allumèrent lorsqu'il se glissa à l'intérieur en rampant. « Tu refermes la porte tout doucement, l'ami. T'as toujours la petite gâterie que t'as louée au serveur ?» Elle était assise le dos au mur, tout au bout du cercueil, les genoux levés, les poings posés dessus, la gueule en pomme d'arrosoir d'un pistolet à fléchette émergeait de ses mains. « C'était vous dans la galerie ?» Il referma l'écoutille. « Où est Linda ? Enclenche-moi ce verrou. » Il obtempéra. « C'est ta nana, Linda ?» Il acquiesça. « Elle s'est barrée. Elle a pris ton Itachi. Franchement nerveuse, la gamine. Et ce pistolet, mec ?» Elle portait des verres miroirs, des vêtements noirs et le talon de ses bottes noires s'enfonçait dans le sol en mousse. Je l'ai rendue à Chine. J'ai récupéré ma caution et lui refourgué mes balles pour la moitié de leur valeur. Vous voulez le fric ? Non. Alors vous voulez de la glace ? C'est tout ce qui me reste pour l'heure. Qu'est-ce qui t'a pris hier soir ? Pourquoi monter tout ce plan à la galerie ? J'ai dû régler son compte à l'autre locaflic qui m'est tombé dessus avec son nunchaku. Linda disait que vous vouliez me tuer. Linda disait ? Je l'avais jamais vue avant de me pointer ici. Vous n'êtes pas avec Gage ? Elle hocha la tête. Il se rendit compte que les verres étaient implantés chirurgicalement, obturant ses orbites. Les lentilles argentées paraissaient saillir de la peau lisse et pâle au-dessus des pommettes, encadrées par un casque hirsute de cheveux bruns. Les doigts repliés sur la crosse du lance-fléchette étaient minces, blancs. Les ongles, vernis bordeaux brillants, semblaient artificiels. « Je crois que tu débloques, Kez. Je me pointe, et tu m'intègres recta dans ton petit cinéma ?»« Alors, qu'est-ce que vous voulez, bel enfant » dit-il en s'affalant contre le montant de la porte. « Toi, un corps en vie, le cerveau encore plus ou moins intact, et moi, au fait, c'est Molly. Kez, je m'appelle Molly. Je suis chargé de te récupérer. » Par l'homme pour lequel je bosse. Juste pour te parler, c'est tout. Personne ne te veut du mal. À la bonne heure. Hormis que je fais du mal à certains des fois, Kez. Je suppose que ça tient à la façon dont je suis câblé. Elle portait des jeans de cuir noir et un épais blouson taillé dans une espèce de tissu mat qui semblait absorber la lumière. « Si j'écarte cette sarbacane, tu promets de rester sage, Kez ? Tu m'as l'air du genre à prendre des risques idiots. Et je suis tout ce qu'il y a de calme. Je suis un mec coolos, pas de lézard. Impec, mec. » Le flécheur disparut dans le blouson noir. « Parce que t'essayes de faire le con avec moi, et tu prends le risque le plus idiot de toute ton existence. » Elle étendit les mains, paumes vers le haut, les doigts blancs légèrement écartés, et avec un cliquetis à peine audible, 10 lames de scalpel longues de 4 centimètres et aiguisées de chaque côté glissèrent hors de leur fourreau sous les ongles couleur bordeaux. Elle sourit. Les lames, avec lenteur, se rétractèrent.